À l'occasion de la sortie du livre « Démocratie en danger », sorti sur le label Bold des éditions Amphora, on échange avec son auteur David Manise par téléphone. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Vous êtes anthropologue de formation et depuis de nombreuses années, vous donnez des stages de survie. C'est quoi le lien entre l'anthropologie et la survie ?
Alors, l'anthropologie et la survie sont des cousins un peu éloignés. Je me suis beaucoup intéressé à la paléoanthropologie et un peu à l'archéologie aussi, avant de me rendre compte que ce qui m'intéressait au final beaucoup là-dedans, c'était de voir comment les gens restaient en vie, comment ils s'organisaient d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue d'organisation des groupes. Et donc, c'est des sujets qui sont finalement connexes, même si il y en a un qui est vachement plus académique et l'autre qui est un peu plus sur le terrain. Il y a vraiment plein de points à faire.
Vous vous dites survivologue pour vous différencier des survivalistes. Pourquoi cette distinction ?
Alors, cette distinction, surtout parce que j'essaie d'avoir une approche un peu plus scientifique et aussi rationnelle que possible des problèmes de survie et des problématiques qu'on peut déterminer et définir là-dedans. Et surtout, j'ai pas envie d'en faire une posture politique. Pour moi, la survie est un problème qui est commun un peu à toute l'humanité. Et donc, ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est de voir surtout les comment et de pas partir d'a priori sociaux ou de partir de croyances, de craintes que tout pourrait s'effondrer brutalement ou que les voisins pourraient partir en conflit ou ce genre de truc, même si ça peut arriver potentiellement. Surtout, il y a quelques postulats un peu classiques chez certains survivalistes, pas tous, mais qui partent du principe qu'en cas de problème, les gens plus ou moins vont s'entretuer ou vont se faire la guerre entre eux, alors que l'histoire ancienne comme récente démontre que les gens ont plutôt tendance à coopérer. Donc voilà, j'ai quelques points de distinction et de divergence avec le mouvement survivaliste dans ces gros clichés. Maintenant, je ne veux pas non plus cracher dans la soupe. Il y a plein de gens qui se disent survivalistes qui ne sont pas du tout dans ce genre de croyances-là et qui sont très, très sereins, très posés et complètement cool avec tout ça. Mais n'empêche que j'avais envie de m'en distinguer parce que aussi, il y a des courants politiques assez extrêmes de tous bords d'ailleurs dans le mouvement survivaliste qui sont vachement bien représentés et j'avais pas envie de cautionner cette tolérance-là pour les extrêmes non plus. Donc de fait, j'essaie d'avoir d'abord une approche rationnelle et scientifique. J'essaie d'avoir une approche qui soit aussi humaniste dans les formations, mais aussi dans les écrits que je peux déposer. Le tout étant au final de garder un peu mon axe principal qui est de servir à prolonger des vies, à faire que les gens meurent moins souvent. Et pour le coup, tout ce qui fonctionne quoi.
Vous avez aussi un espace sur internet, un forum qui s'appelle Vie sauvage et survie qui existe depuis de nombreuses années. C'est aussi un espace pour échanger sur toutes ces pratiques et avec les personnes qui sont intéressées par la survie au sens large.
Oui, tout à fait. Quand je suis arrivé en France en 2000, assez peu de temps après, j'ai commencé à vouloir donner des stages de survie et puis je me suis heurté un peu à un barrage administratif et réglementaire. Si bien que de frustration, j'ai eu envie de partager un peu mes connaissances et c'est comme ça que le forum est né. Donc ouais, en 2003 ou en 2002, on a lancé ce forum. Et puis au début, on était quatre, quoi. Je pensais être le seul en France à m'intéresser à ces sujets. Et à l'époque, c'était pas très mainstream comme aujourd'hui. Et puis de 4, on est passé à 40, et de 40, on est passé à 400. Et aujourd'hui, on est au-delà de 4000 membres, dont plusieurs restent vraiment actifs. Et c'est vachement intéressant parce que ça crée une émulation, ça permet de partager des connaissances. Paradoxalement, enfin, j'ai commencé à partager toutes ces connaissances sans du tout mesurer l'impact que ça aurait. À la fois sur le milieu et sur la discipline, mais sur mes connaissances à moi aussi, parce que j'ai vachement appris aussi au contact des gens du forum, dans les discussions, et ça m'a amené à progresser énormément, donc ça a été vraiment gagnant-gagnant, quoi.
Au vu de votre parcours, je me serais plutôt attendu à un livre de survie, du coup, de votre part. Vous en avez sorti déjà?
Alors oui, on en a sorti plusieurs. J'ai sorti le manuel de survie en milieu naturel, donc le livre rouge et Amphora. Et ensuite, on a sorti trois déclinaisons par biotope. Autrement dit, le manuel rouge, c'est un peu le tronc commun, si vous voulez, et qui fonctionne à peu près partout. Et puis après, on a rajouté des détails sur les biotopes. Donc du coup, forêt, montagne et grand froid. Pour permettre à ceux qui vont avoir une pratique plus engagée dans ces milieux-là de se perfectionner et de voir d'avoir un peu plus de détails sur le milieu qui les intéresse. Maintenant, il y a des ponts à faire entre les quatre. C'est comme ça que je suis rentré en guillemets chez Amphora. C'est pas par l'entremise des manuels de survie qui continuent de bien fonctionner. D'ailleurs, je suis vachement content parce que très souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah ouais, j'ai lu ton livre !» et c'est l'occasion pour eux de commencer à se mettre le pied à l'étrier, commencer à pratiquer un petit peu dans leur coin, même s'ils n'ont pas fait de stage ou de formation. Ils peuvent déjà avoir des bonnes bases pour faire moins d'erreurs, quoi.
Et donc, votre livre s'appelle « Démocratie en danger ». Vous traitez du morcellement de nos sociétés occidentales. C'est quoi le lien entre ces questions que vous abordez dans le livre et la survie, enfin tout le reste de votre travail ?
Alors, ce qui m'a intéressé dans la survie au début, c'était évidemment les aspects techniques. Comment on fait du feu, comment on trouve de l'eau, comment on purifie son eau, tout ça. Très vite, je me suis rendu compte que les problèmes de survie qu'on rencontre sont souvent très liés à nos émotions, vont être aggravés par une mauvaise gestion du stress ou par des croyances ou par des choses comme ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé évidemment à la psychologie, à tout ce qui tourne autour des émotions, de la perception du danger, de la gestion des risques en survie. Individuellement et puis de plus en plus ensuite en petits groupes, parce qu'il y a des effets de groupe qui émergent évidemment dans une situation de stress qui peuvent aggraver la situation. De fil en aiguille, forcément, ça m'a amené à réfléchir sur les problématiques plus larges de survie et d'organisation de la coopération en groupe, notamment dans des zones qui subissent des catastrophes par exemple, dans le cas d'une panne de courant prolongée, ou comme il y a quelques années dans la vallée de la Roya, où ils ont été coupés du monde pendant une bonne période. Donc, tout ça m'a amené à réfléchir sur comment on organise la coopération, comment on structure les interactions, comment on fait en sorte que les conflits se désamorcent, et tout ça. Et ça m'a permis de faire le pont, évidemment, avec l'anthropologie, notamment l'anthropologie sociale. Et voilà. Et réfléchissant à tout ça, j'ai vu quelques années quand il y a eu l'invasion du Capitole au moment de l'investiture, enfin du moment où on allait déterminer l'investiture de Biden, ça m'a vachement questionné. Et c'était une réflexion que je faisais en parallèle des Gilets jaunes, mais de différents mouvements en France. À l'époque, c'était un peu aussi les Black Lives Matter aux États-Unis, ce genre de mouvement qui était vachement clivant au final, et les QAnon, etc. Donc, j'ai essayé de comprendre la mécanique, j'ai essayé de comprendre comment les gens réfléchissaient à tout ça, comment ils se positionnaient, le rôle des réseaux sociaux aussi dans l'émergence de ces mouvements qui sont vachement vus de l'extérieur assez intenses et assez pour certains un peu même irrationnels. Dans le cas des QAnon, par exemple, il y a des discours qui sont vraiment difficiles à vérifier et qui sont très fédérateurs quand même et qui génèrent des comportements qui vont jusqu'à aller envahir le Capitole, quoi. Du coup, ça m'a vachement questionné et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux avaient un rôle à jouer qui était très important là-dedans, de par les algorithmes et de par le fait que ça facilite le fait d'être mis en contact avec des discours qui sont proches des nôtres, en fait. L'algorithme nous propose essentiellement des choses qui vont nous faire nous impliquer et interagir. Du coup, si on s'intéresse à un sujet, il nous propose de plus en plus du même sujet. Et on a tendance assez vite, dans ce cadre-là, à tourner un peu en circuit fermé. Voilà, donc tout ça, plus évidemment l'action des services étrangers qui utilisent ces algorithmes-là pour vraiment faire monter la mayonnaise et finalement participer au clivage et augmenter les clivages dans mon pays. Donc c'était le début d'une longue enquête finalement. Et d'où du coup le lien est là en fait. Le lien c'est comment nos sociétés peuvent préserver leur tissu social et leur cohérence et leur capacité à coopérer même si on est dans des camps différents ou d'avis divergents. Comment on peut vivre ensemble quoi.
On peut dire que la survie, c'est un peu la gestion du stress au niveau individuel, entre guillemets. Et là, vous êtes sur le groupe au sens le plus large, quoi, au niveau d'un pays, voire d'un continent, ou même plusieurs, la société occidentale, quoi.
Tout à fait. Et c'est là que je vois les parallèles. C'est que l'organisation de la survie pour un pays ou pour un continent ou pour toute la planète dépend quand même un peu de la coopération des gens. De l'harmonisation des relations, de la capacité à profiter de la diversité plutôt que de la subir. Et c'est comment dire, c'est très important, je pense, surtout aujourd'hui, avec les technologies de communication qu'on a, d'être très prudent et d'être très très maître de sa consommation d'informations et de comment ça nous fait réagir, quoi. On voit sur les réseaux sociaux les gens qui montent littéralement dans des guerres par écran interposé où les gens s'énervent vraiment très fort et peuvent monter très très haut et très très vite. Et je pense que déjà le média et le fait qu'on soit loin de la personne et qu'on n'ait pas accès à son paraverbal, qu'on puisse interpréter plus facilement, etc., fait que les gens non seulement s'énervent plus vite, mais se permettent aussi potentiellement des interactions qui sont un peu plus brutales que ce qu'ils feraient s'ils étaient devant la personne. Et ça peut vraiment créer des dissensions importantes. Maintenant, il y a pas que ça, évidemment. Il y a plein d'autres phénomènes de perte de repères et de perte de sens dans nos sociétés. Et c'est une question que j'adresse aussi dans ce livre, c'est que je pense qu'il y a des questions de leadership au niveau des États, qui doivent être vraiment réfléchis et vraiment pris en compte pour justement donner du sens, donner un objectif commun à des pays, à des régions, à des ensembles de populations qui sans ça vont s'inventer chacune des vocations, des causes, etc. Et je pense que c'est important de redonner du sens et de la crédibilité au pouvoir public aujourd'hui dans le sens de déterminer ces objectifs communs et une direction commune, parce que ça, non seulement ça permet de se positionner librement, à savoir si on est d'accord ou pas avec ce projet, mais je pense que la perte de crédibilité qu'on vit aujourd'hui face à beaucoup des élites, les gens sont de plus en plus méfiants, voire défiants, vis-à-vis des élites politiques, mais aussi financières, académiques, scientifiques. Et j'ai du mal à leur donner entièrement tort parce qu'il y a quand même certaines personnes et certains cas qui décrédibilisent chacune de ces élites-là à leur manière. Maintenant, le fait que ces erreurs-là de certains soient montées en épingle et en mayonnaise comme ça me questionne aussi et je pense qu'il va être important à un moment donné de refédérer et de refaire redonner du sens et de la crédibilité à tout ça. Donc c'est une des pistes de réflexion que je lance dans le livre. Voilà, je n'ai malheureusement pas la prétention d'avoir la solution et de pouvoir avoir un vrai levier là-dessus, mais si plusieurs personnes se mettent à y réfléchir et que ça arrive dans les bonnes oreilles, mais peut-être que ça aura un petit impact dans la durée ou pas, on verra.
En tout cas, vous cherchez des pistes de réflexion pour d'éventuelles solutions à la fin du livre. Alors, on va peut-être pas tout dévoiler, hein, mais j'avais une autre question par rapport au clivage. C'est pas une nouveauté que les sociétés se morcellent, notamment en Europe. Mais est-ce que la nouveauté, c'est plutôt cette amplification? Vous parlez des réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même des choses qui n'existaient pas avant, quoi, dans l'histoire.
Oui, depuis, c'est documenté, hein, depuis les années 50, notamment le KGB, qui est devenu le FSB, emploie des grosses quantités de main-d'œuvre uniquement pour produire des fake news, pour produire de la désinformation et pour favoriser tous les sujets qui peuvent cliver les pays démocratiques. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple concret, il y avait entre 29 et 31 gros groupes chrétiens fondamentalistes sur Facebook qui s'adressent au public états-unien. De mémoire, c'est écrit dans le bouquin et je cite l'étude qui en parle, etc. Mais sur les 29 ou les 31, je ne me souviens plus. Bref, il n'y en avait que deux qui n'étaient pas créés et gérés et administrés par des fermes de trolls qui étaient basées en Macédoine. Autrement dit, les groupes Facebook créés et administrés par des trolls, donc des trolls professionnels payés par un État, 140 millions d'États-Unis par mois. Donc on voit l'ampleur du phénomène et on voit que les contenus qui étaient postés sur ces groupes étaient essentiellement des sujets clivants, des sujets qui allaient discréditer le gouvernement, des sujets qui allaient faire peur aux gens et les pousser dans des mécanismes un peu de survie et de paranoïa qui font rien pour arranger les choses, quoi. Donc il y a une vraie volonté, et pas que des Russes, hein, d'autres pays évidemment, qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce que, par exemple, la France fonctionne bien, que l'Europe se fédère de manière harmonieuse, parce que évidemment l'Europe serait, si elle était vraiment unie et fédérée et capable de s'organiser militairement, serait un énorme contrepoids entre la Chine et les États-Unis. Donc il y a des vraies volontés de saboter, de diviser pour mieux régner au final. Et c'est un sujet qui me semble assez préoccupant pour que on puisse essayer de nous en tant que citoyens à notre petite échelle de mettre en place une sorte d'antivirus à ces tentatives de cliver là et de pas se laisser faire tout simplement parce que il y a une espèce de guerre de l'information aujourd'hui dont nous on est la cible et je pense que c'est important d'en parler clairement et de sensibiliser les gens et c'est un aussi des objectifs de ce bouquin.
Vous parlez de guerre pour le contrôle de la réalité, j'aime bien cette expression.
Oui, le contrôle du récit, le contrôle de ce qu'on détermine comme étant la réalité et au final, ce qui devient vrai, c'est ce qu'on en dit bien souvent. Et donc le récit, les récits communs, communément acceptés à l'intérieur de certains groupes, se distinguent vraiment très nettement des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces groupes un peu extrême entre guillemets va avoir une récit, une explication, une version de la réalité qui est complètement différente de celle de l'autre, et ça devient difficile de réconcilier les deux. Et c'est pour ça que le titre original de ce bouquin, avant qu'il soit modifié par l'éditeur, c'était La Faille, dans le sens où il y a une espèce de fissure tectonique entre les groupes aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant de voir comment on peut relier les deux berges de ces failles pour essayer de renouer du dialogue et éviter que chacun se remonte la tête dans son coin, quoi.
Au début du livre, vous faites un parallèle avec la Gaule attaquée par César. La Gaule, à cette époque, c'était les Gaules, c'était plein de tribus divisées. Et
Ouais.
c'est vous expliquer que c'est un peu la raison de la défaite, en fait. Si on est divisé, c'est plus dur de gagner la bataille.
Alors, ce qui est sûr, c'est que sur la fin, Vercingétorix a réussi à réunir beaucoup, beaucoup de monde autour de lui et qu'ils ont remporté des victoires face aux légions romaines. Alors, la question que je pose, évidemment, je peux pas refaire l'histoire et tirer des conclusions facilement, mais l'hypothèse que je pose, c'est et si les Gaulois s'étaient unis plus tôt face aux légions, est-ce que l'issue du combat n'aurait pas été plus favorable pour les Gaulois? Est-ce que César aussi n'a pas quelque part profité des dissensions et accentué ces dissensions pour affaiblir les Gaules, justement? Et pour pouvoir se glisser dans les failles, quoi. J'utilise cet exemple, cette hypothèse un peu comme une analogie, évidemment. Aujourd'hui, Il y a une espèce de guerre d'ego informationnelle qui a lieu, et je pense que peut-être que les Gaules devraient se réunir un peu et au moins discuter entre elles pour voir s'il y a pas moyen de se mettre d'accord. Et dans le pire des cas, ça permettra d'être d'accord en bonne intelligence, et c'est très bien. Je pense que la divergence et les désaccords font partie d'une société saine. Maintenant, les désaccords d'une société saine permettent de quand même vivre ensemble. Et c'est quelque chose que je dis souvent. Je dis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut quand même être à côté du feu et faire griller des saucisses, quoi. Donc, et avoir une bonne discussion et potentiellement même passer une bonne soirée, pour peu qu'on respecte chacun les divergences de l'autre et les désaccords, quoi. Et ces désaccords-là, pour moi, sont riches, ils sont vachement importants. Forcément, ils créent des frictions. Mais ces frictions-là font partie de la vie, et je pense qu'il faut réintroduire un peu la notion de respect et la notion de tolérance dans nos sociétés. Et c'est paradoxalement, on vit dans une société qui est vachement tolérante en théorie et sur papier, et il y a beaucoup de mouvements pro-tolérance qui peuvent paradoxalement devenir les plus intolérants de tous. Je pense que la vraie tolérance de fond, qui est de respecter le point de vue, respecter les objectifs, respecter la vision du monde de l'autre, essayer de la comprendre et de s'en nourrir, sans pour autant perdre son point de vue à soi et ses valeurs à soi, ses objectifs à soi. C'est vraiment enrichissant, et si l'anthropologie m'a appris quelque chose, c'est vraiment cette intersubjectivité, c'est cette capacité à rencontrer la subjectivité de l'autre, sans pour autant perdre la sienne de vue, et de voir qu'est-ce que ça nous apprend de nous et de notre fonctionnement, et comment on peut grandir et évoluer là-dedans, quoi.
Est-ce que le problème ne viendrait pas aussi de l'identification de l'ennemi? Quand la Gaule était attaquée par les Romains, voilà, c'était identifié. Là, c'est quoi l'ennemi commun entre l'extrême gauche, l'extrême droite, tous ces groupes?
Le lien commun, vous avez dit, ou l'ennemi commun?
L'ennemi commun, ouais.
Eh ben, l'ennemi commun, j'en sais rien. Je pense que déjà, et c'est peut-être pas pour rien que je me suis donné comme axe de prolonger des vies, de faire en sorte que les gens meurent moins souvent, c'est que l'ennemi commun qu'on a tous, déjà sur toute la planète, que ce soit des Chinois, des Russes, des Américains, des Allemands ou des Français, c'est la mort, quoi. je pense qu'on est tous plus ou moins sur la même planète et dans le même biotope global, face à des problématiques qui sont notre survie en tant qu'espèce, et peut-être qu'ils se répandent s'en préoccuper aussi. Je pense que la mort est un bon ennemi commun qui met un peu tout le monde d'accord, quasiment.
Dans votre travail de survivologue, vous donnez une règle de trois pour faire face justement à la mort. Vous pouvez nous la donner?
Alors oui, on dit que... Enfin, c'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre, c'est pour poser des priorités. Mais on dit qu'on survit 3 secondes sans vigilance ou sans gestion des risques. C'est l'accident bête qui nous tue instantanément, en guillemets. 3 minutes sans oxygène dans nos centres vitaux, ce qui nous parle des premiers secours et de tout ce qui va permettre d'alimenter nos centres vitaux en oxygène. Le cœur qui bat, la respiration, la circulation, etc. On survit globalement 3 heures sans pouvoir réguler sa température. Autrement dit, s'il fait très chaud ou très froid et que je ne peux pas me protéger des éléments, ben c'est ma troisième priorité. Ensuite, ben, on peut continuer avec 3 jours. Donc 3 jours sans eau potable, 3 semaines sans manger. 3 semaines plus ou moins sans manger, ça dépend de... Donc c'est certains plus que d'autres, quoi. 3 mois sans hygiène. On parle de prophylaxie, de prévention des infections, etc. Et puis, pour la blague, après on dit 3 ans avec un conjoint toxique ou 3 ans avec un boulot de merde. Parce que c'est vachement important de prendre soin de notre santé mentale au final. Et par exemple, le Covid a beaucoup, beaucoup fait de dommages là-dessus, entre les confinements, les incertitudes financières, etc. Et le stress d'être confiné, ça a fait vraiment des dommages. Chez beaucoup de gens. Et donc, je pense que ça boucle un peu la boucle et etc. Maintenant, cette règle des trois, je vais rendre à César ce qui revient à César. On l'a pris chez un monsieur qui s'appelle Ron Hood, qui est un instructeur de survie qui est maintenant décédé, qui est aux États-Unis. Et on l'a complété un peu. Donc, c'est lui le vrai créateur de cette règle.
Parce que je me rappelais de 3 mois sans relations sociales.
Alors, on disait avant 3 mois sans relation sociale, mais on l'a changé pour les 3 ans, partant du principe que surtout dans les problématiques de survie en ville ou dans des milieux où il y a beaucoup de monde, la gestion de la prophylaxie, de la prévention des infections était prioritaire. Et c'était avant le Covid et tout le monde se moquait un peu de nous. Peu de gens comprenaient et au final, on a vu que apprendre à se laver les mains et appliquer les gestes barrières, ça fait quand même la différence. Donc voilà, on a inversé, quoi.
Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc, je rappelle que votre livre s'appelle Démocratie en danger, sous-titré Comment nos clivages sont amplifiés pour fragiliser notre société. Ça sort sur le label Bold des éditions Amphora. Merci beaucoup, David Manise, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.